à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans votre émission spéciale, Leçons d'enfants, l'émission radio des enfants qui s'engagent pour faire entendre leur voix. Nous sommes les élèves du complexe scolaire islamique Tanko. Et c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, les droits des enfants et des jeunes. Trop souvent, on oublie que nous aussi, les enfants, nous avons des droits. Et dans notre club, on a décidé de dire « Stop à l'ignorance ». Il est temps de faire connaître et faire respecter nos droits. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour de présentation pour que vous sachiez qui vous parle aujourd'hui. Moi, c'est Pampan Khadija, élève en classe de 6e. J'ai 13 ans et je suis ravie d'être là avec vous. Et nos invités du jour sont aussi nos camarades. Alors, chers amis, voulez-vous bien vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices?
Bonjour à tous. Je me nomme Fissirou Aminata.
Je me nomme Alassani Solia.
Je suis Yakubo Mouniko.
Je me nomme Hamza Saïda.
Merci à tous. Maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, place à un peu de musique. Écoutons ensemble le son que nous avons préparé sur les droits des enfants et des jeunes.
Afrique, écoute les cris de cette fille dont les droits sont bafoués. Afrique, écoute les cris de cette fille dont les droits sont bafoués.
Mes chers parents, je vous ai écrit cette lettre. Si vous la lisez, sachez qu'elle vient de mon aide. Cher gouvernant, une nouvelle ère doit naître pour mieux protéger nos droits qui semblent disparaître. Saviez-vous que je suis une fille et j'ai aussi des droits? Saviez-vous que je dois être libre de faire mes choix? Saviez-vous que je suis une fille mais j'ai aussi des droits? Saviez-vous que je dois être libre de faire mes choix? On veut aller à l'école et réaliser nos rêves. Plus d'inégalité, plus de filles abusées.
Une fille éduquée est une famille éduquée. Aidez-nous à y arriver. Une fille éduquée est une nation éduquée. Aidez-nous à y arriver.
Tous les hommes naissent égaux devant la loi. Oh, tous les enfants doivent fréquenter. C'est le droit, c'est le droit. Je suis belle et je suis forte.
Bonjour, on revient après cette belle pause musicale. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On commence par une question simple pour vous, les amis. Qui peut me rappeler le nom de notre école et dire où elle se situe?
Merci pour cette question. Notre école s'appelle le complexe scolaire islamique Tanko. Elle est située à Lomé, au Togo, précisément à Kégezogbedi.
Vous parlez aussi du club Leçons d'enfants. C'est quoi exactement? Qui peut nous expliquer ce que c'est concrètement?
Merci pour cette question. Le club Leçons d'enfants, c'est un groupe d'élèves qui se réunissent pour parler des droits des enfants, apprendre à les défendre et mener des actions pour sensibiliser les autres élèves et la communauté.
Et qui peut devenir membre de ce club?
Tous les élèves peuvent être membres à condition d'être motivés, âgés de moins de 15 ans, curieux et prêt à s'engager pour les droits des enfants.
Merci pour cette réponse. Quelles sont les activités que vous réalisez au sein de ce club?
Merci pour cette question. On fait des jeux éducatifs, on fait des échanges avec les classes jumelles, on organise les débats, on prépare des skates, on fait des visites et on mène des campagnes de sensibilisation dans le quartier ou à l'école en guise d'action citoyenne. Notre classe jumelle de cette année est située en Haïti.
Très bien. Passons maintenant au cœur du thème, les droits des enfants et des jeunes. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce thème plutôt qu'un autre?
Nous avons choisi de travailler sur ce thème parce que beaucoup d'enfants ne connaissent pas leurs droits. Certains sont maltraités, exploités ou privés d'éducation. Nous voulons que cela change. Alors nous avons décidé d'en parler autour de nous.
Merci très cher ami pour la belle réponse. Alors, selon vous, qui peut-on considérer comme un enfant?
Un enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. C'est ce que dit la Convention relative aux droits des enfants.
Et c'est quoi, au juste, le droit des enfants?
Les droits des enfants, ce sont des règles qui protègent les enfants dans tous les pays. Ces droits garantissent que chaque enfant doit être respecté, protégé, éduqué et soigné.
Pouvez-vous nous citer quelques droits des enfants que vous connaissez?
Il y a le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection contre la violence, le droit de jouer, le droit à un nom et une nationalité, le droit d'avoir une famille, le droit de s'exprimer.
Y a-t-il des lois ou des textes qui protègent ces droits? Lesquels?
Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'ONU en 1989, la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. Il y a aussi le Code de l'enfant du Togo, adopté en 2007, et la Constitution togolaise qui protège les enfants.
Tout au long de l'année, vous avez visité certaines structures. Qui se rappelle des noms de ces structures qui travaillent sur les droits des enfants et jeunes?
Oui, nous avons visité SOS Village d'enfants et Séjus. Ils nous ont bien félicités et nous ont bien accueillis.
Qu'est-ce que le droit des enfants et pourquoi les enfants ont-ils le droit particulièrement?
Au Togo, il faut savoir, comme elle a dit, que l'enfant déjà, c'est celui qui a moins de 18 ans. De 0 à 18 ans, non révolu, on vous considère comme un enfant. Alors les droits des enfants, c'est les droits qui sont reconnus à cette catégorie de personnes. Vous comprenez? Maintenant, on peut encore mieux comprendre ce que sont les droits des enfants. Les droits des enfants, on peut les comprendre en termes d'obligations pour les adultes et la société. C'est ce que la société, les parents et puis la communauté autour de l'enfant a l'obligation de faire pour que l'enfant puisse grandir et s'épanouir correctement dans la société. Tout ce que vos parents doivent faire pour vous, la société autour de vous, les gens dans vos quartiers, doivent faire pour que l'enfant grandisse sans problème et connaisse un épanouissement correct dans la société, cela constitue les droits des enfants. Je vais vous donner un exemple simple. L'enfant a droit à la santé. Ça veut dire que le parent ne doit pas créer autour de l'enfant un environnement qui permette à l'enfant de tomber malade. Ça, c'est le droit à la santé. L'enfant a droit à l'éducation. Ça veut dire que le parent doit tout faire pour scolariser son enfant, pour que l'enfant bénéficie de l'éducation. Vous voyez, non? Les droits des enfants, on peut les comprendre aussi comme les obligations qui incombent ou bien qui incombent aux gens qui sont autour de l'enfant pour permettre à l'enfant de bien grandir et de vivre sans problème, de s'épanouir dans la société. Vous avez compris? Maintenant, pourquoi est-ce que des droits particuliers pour des enfants? Parce que l'enfant lui-même, c'est un être particulier. Il lui faut des droits particuliers. Comme l'a dit la collègue, les droits de l'homme sont généraux. Ça ne prend pas en compte la particularité de l'enfant. L'enfant, c'est un être vulnérable, comme elle l'a dit. Donc, si on ne prend pas en compte la particularité de l'enfant, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire à l'enfant pour que l'enfant puisse bien grandir et ne pas connaître des problèmes. C'est pourquoi, en dehors des droits de l'homme qui sont généraux, parce que l'enfant aussi est un homme, un être humain, mais en dehors de ces droits humains qui sont généraux, on va maintenant parler des droits qui vont le concerner lui-même particulièrement et prendre en compte les choses qui lui sont particulières. Vous avez compris un peu? C'est pourquoi, en dehors des droits de l'homme, finalement, on va adopter aussi des tests qui constituent des droits pour les enfants.
Un enfant peut-il être privé de ses droits? Si oui, dans quel cas est-ce possible?
Les droits que les enfants ont également, c'est ce que les collègues ont dit. Ce sont des droits qui vous appartiennent. Ça, on ne peut pas vous les enlever. Comme papa peut peut-être vous enlever certaines choses. Mais les droits, on ne peut pas vous les enlever. Mais parfois, on peut un peu les limiter. Maintenant, la limitation qu'on peut apporter aussi aux droits des enfants sont des limitations que la loi doit avoir prévues. Si la loi n'a pas prévu une limitation, on ne peut pas se lever et puis limiter le droit de l'enfant comme ça. Les enfants aussi, ce n'est pas tous les enfants, à tous les enfants qu'on peut limiter les droits. Parce que la loi dit, en tout cas au Togo, que lorsque l'enfant fait quelque chose de mauvais et qui mérite une punition de la société, parce qu'il faut comprendre ça comme ça. Quand l'enfant fait quelque chose à ses parents, les parents le punissent. Quand l'enfant fait quelque chose contre la société également, la société va punir l'enfant. Donc l'enfant va voler quelque chose d'autrui, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de mauvais contre la société. Là, ce n'est plus les parents qui vont les parents peuvent le punir, mais comme c'est tombé dehors, c'est la société qui va le punir si ça va chez l'État. Mais la loi dit que ce n'est pas tous les enfants qu'on peut limiter dans leurs droits. Au Togo, les enfants qui peuvent aller dans la punition de la loi, ce sont les enfants qui ont plus de 14 ans. Entre 14 ans et 18 ans. En bas de 14 ans, le Togo pense que l'enfant est encore trop petit pour subir les punitions que la société doit donner à un enfant. Il ne faut pas que on met l'enfant quelque part où, au lieu qu'il soit corrigé, sa situation va s'aggraver. Donc, le Togo estime que quand l'enfant a moins de 14 ans, on ne va pas le punir de certaines punitions. Donc, à partir de 14 ans, l'enfant qui vole, l'enfant qui blesse quelqu'un, l'enfant qui fait quelque chose de grave, on va le punir. L'enfant a le droit de se balader, mais quand il fait ces choses, on peut le garder quelque part où il ne peut plus se balader comme ses amis se baladent. Mais certains droits lui seront toujours garantis, comme le droit de manger. Parce que l'enfant a le droit à la vie. S'il ne mange pas, il va mourir. Il a le droit à la santé. S'il ne mange pas, il va aussi tomber malade. Même pendant qu'on le punit, si l'enfant tombe malade parce qu'il a droit à la santé, on doit le soigner pour qu'il retrouve sa bonne santé. Mais pendant ce temps, par exemple, il n'aura pas le temps de se balader comme les autres se baladent. Il va voir ses amis peut-être aller ici, revenir, mais lui sera gardé quelque part. Pour qu'il apprenne un peu la leçon, là quand on va le laisser, il ne va plus encore faire ce qu'il a fait.
Quels sont les principaux défis liés aux droits des enfants au Togo aujourd'hui?
En venant à SOS, ce que SOS fait, c'est parce que SOS veut contribuer à relever un défi. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là sans parents et qui souffrent. Il y a ça c'est un grand défi. Il y a la question des enfants de la rue, c'est un défi de protection à relever. La question des grossesses précoces au niveau des écoles, c'est aussi un grand défi. La question de l'utilisation du portable, que vous, on vous dit, n'amenez pas le portable à l'école, vous amenez, vous cachez. C'est un grand défi aussi, parce que vous ne savez pas que les portables vous détruisent. Le portable détruit. Ça détruit. Vous êtes là, vous êtes des enfants. Les gens peuvent utiliser le portable. Il prend ton numéro ou le numéro de ton père. Parce que tu joues souvent avec le portable de ton père, ta mère. Il prend le numéro, il met la photo d'un enfant. Il va parler avec toi, te donner rendez-vous. Moi aussi, j'ai 13 ans, il faut qu'on se connaisse. Tu vas tromper tes parents, dire que je vais aller ici. Or, c'est, tu vas aller rencontrer, c'est un adulte. Tu as une fille, il va t'abuser sexuellement. Tu vas dire à qui? C'est un danger. Le portable est un danger. Outre le moyen de communication, il y a le côté pervers du portable. Il y a, au-delà de ça, il y a aussi un autre défi. Le Togo n'a pas encore adopté la politique de protection de l'enfant. Or, la politique de protection de l'enfant est un document qui oriente toutes les actions des ONG et de l'État par rapport à tout ce qu'on doit faire avec les enfants. Mais les premières initiatives ont commencé en 2008. Après, on a changé, 2014, on a fait une étude, une analyse du système de protection de l'enfant, où on a vu comment ça fonctionne. On a encore élaboré un nouveau document qu'on appelle « Politique de bien-être de l'enfant et de la famille ». Depuis 2014, j'étais consultant par rapport à l'élaboration de ce document, mais jusqu'à ce jour, l'État peine à pouvoir adopter ce document. Or, c'est en adoptant ce document qu'on peut faire la stratégie et donner du budget afin que tout le monde, les ONG, l'État puisse faire le travail. Maintenant, on est en train de naviguer à vue. Et je crois que je peux me résumer en disant que le grand défi, c'est avoir cette politique. Et dans cette politique, on met tout ce qu'il y a comme problème d'enfants, enfants de rue, enfants, les enfants en prison, tout. Mais comme aujourd'hui, on n'en a pas cette politique, tout le monde fait ce qu'il veut, ce n'est pas vraiment organisé. Donc le plus grand défi, qui est comme la racine du problème, qui peut régler tous les problèmes, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire un plaidoyer pour que cette politique de bien-être de l'enfant et de la famille soit adoptée. Et quand elle sera adoptée, tout le monde sera à l'aise. Ce serait balisé. C'est comme actuellement, nous sommes en brousse, il n'y a pas de chemin, tout le monde passe comme là où il veut. Maintenant, si on fait cette politique, c'est comme on a fait une route et tout le monde va passer par là.
Qu'est-ce qu'un enfant peut parler de ses droits à ses parents? À l'école ou à quelqu'un d'autre, et donner son avis sur les décisions qui le concernent.
Effectivement, oui. Les droits sont reconnus à tous les enfants. Et les parents doivent reconnaître parce que je vous ai parlé de la Convention relative aux droits de l'enfant qui a été ratifiée, de la Charte africaine et du Code de l'enfant, c'est les parents qui ont adopté ça, les députés. C'est nous tous qui sommes allés voter, les députés, on leur a donné notre voix et ils ont voté, maintenant ils nous ont donné des droits. Maintenant, on ne peut pas dire qu'ils me connaissent. Donc, un enfant peut parler de ses droits à ses parents, mais l'enfant doit savoir comment parler de ses droits à ses parents. Généralement, vous, on te dit, va à l'école, tu dis non, je ne vais pas, j'ai des droits. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, nécessairement, il faudrait que les enfants sachent comment parler de leurs droits à leurs parents. Sinon, les parents connaissent leurs droits. Aux enseignants, oui. Par exemple, l'article 376 du Code de l'enfant dit que c'est interdit de taper les enfants à l'école. Mais maintenant, je sais que l'école islamique à parenté privée, on vous frappe. Ce n'est pas normal. Retenez au moins ça, que moi j'ai dit que l'article 376 du Code de l'enfant interdit de taper les enfants. Et maintenant, vous avez le droit, c'est de vos droits, qu'aujourd'hui, si on vous tape à l'école, vous pouvez appeler le 10-11, vous pouvez appeler la police, parce que la loi existe, la loi interdit qu'on tape les enfants. Alors, au nom de quoi on peut se mettre à taper les enfants quand la loi dit que c'est interdit? De la même façon, l'article 353 interdit aussi de frapper les enfants à la maison. Mais là-bas, imaginez-vous, si vous signalez votre père, vous n'allez plus manger, il va vous chasser de votre maison. Ça, vous devez le savoir. Parce que les parents pensent que, bon, vous leur appartenez, ils peuvent faire tout, mais il faut les sensibiliser. Dites-vous que vous êtes allé quelque part et maintenant on vous a dit que l'article 353 dit que l'État protège les enfants contre toutes les violences, en famille, à la maison. Et l'article 376 dit que le châtiment corporel est interdit à l'école, à la police, dans toutes les institutions. Retenez au moins les deux articles, cherchez le code de l'enfant. Et puis voilà, vous allez, c'est comme ça que vous allez faire valoir vos droits. Vous pouvez faire valoir vos droits tant au niveau de vos parents, des enseignants et quiconque. Maintenant, pour la question de votre voix peut être prise en compte, oui, c'est un principe des droits de l'enfant. Il y a quatre principes des droits de l'enfant. Et le principe de la participation ou l'opinion de l'enfant est un principe phare. Donc, normalement, tout ce qu'on veut faire, on doit demander votre avis. On doit demander votre opinion. C'est vrai que nous sommes dans des maisons un peu compliquées. Sinon, s'il y avait eu l'occasion de participer, si vous allez dans les maisons de SOS, vous allez voir le planning des repas à préparer par semaine qui est affiché. Et c'est les enfants même qui ont dit, aujourd'hui, c'est le riz. Chaque lundi, on va manger le riz. Mardi, on va manger la pâte, ainsi de suite. Et c'est fait. Et les mamans sont obligées de leur préparer cela. Mais je sais que chez vous, c'est ce que vous arrivez, ce qui est préparé, c'est ça que vous mangez. Ou bien, on vous demande ce que vous voulez manger d'abord. Non. Ben, n'allez pas appliquer ça là-bas. Ici, nous, on est dans une institution où il y a les moyens de s'occuper des enfants. Si vous dites ça à votre père, vous allez rester affamé. Demain même, on ne va pas vous demander. Vous-même, vous allez demander ce qu'on a préparé pour manger.
Comment SOS Village d'enfants agit-il à son niveau pour protéger et promouvoir ses droits?
SOS Village d'enfants est dans une approche droit qui demande à ce qu'on fasse des services directs aux enfants. La première question, c'est ce qu'elle dit, on s'occupe des enfants. Et l'enfant coûte très cher à SOS Village d'enfants. Un seul enfant coûte très cher. Et on en a beaucoup, des centaines. Mais un seul enfant, ça coûte très, 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 très cher. Et donc, ce que SOS fait, normal, c'est le rôle de l'État. En Europe, quand vous allez, c'est l'État qui fait. Maintenant, SOS donne à manger à l'enfant. D'abord, un, quand l'enfant a des problèmes, il va le faire quitter de sa famille. Et quand on dit de sa famille, parfois, il n'y a même pas de maison, de chambre à coucher. C'est les clés qu'on sort, SOS le retire là-bas. Il vient, il lui donne une villa dans laquelle il dort. Dans la villa, il y a des lits. Il a son propre lit. Il va dormir là-bas. Il va être soigné à 100%. Aujourd'hui, avec SOS, quand un enfant est malade, si c'est 10 millions qu'il faut tout à l'heure pour l'opérer, on va l'opérer. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas l'argent. On va l'opérer, quel que soit le montant. Quand les enfants sont malades, ils vont seulement à l'hôpital et on prescrit les médicaments et ils achètent. Il y a des pharmacies partenaires. Après, ils font la facture globale, on paye tout. Ils ont des problèmes d'yeux, on fait la consultation ophtalmologique, on leur fait les verres. Tout, 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 tout. À l'école, on paye leur écolage. Il grandit jusqu'à aller à l'université. Les gens sont à l'université à 1 500 200 et 2 millions, on paye. Donc, SOS fait beaucoup pour les enfants et les jeunes. Donc, c'est pourquoi il dit que c'est une prise en charge holistique. Tout, tout, tout ce que l'enfant doit, habillement, ils ont les cadeaux à Pâques, ils ont des habits, on les achète des habits, mais à Noël, ils ont une tenue. Au niveau de Bonne Année, ils ont aussi, ils ont quand même tout ce qu'un enfant doit avoir pour grandir. Harmonieusement. Ça. Mais au-delà de ces services directs qu'on donne, nous sommes dans les communautés, dans les villages, où on travaille aussi avec les communautés. On leur donne des services à travers des projets. Par exemple, on a un projet Baby Moto, qui s'occupe des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, jusqu'aux enfants de 5 ans. On a des projets qui font des tontines, qui font des prêts aux femmes. Il y a beaucoup de choses qu'on fait au niveau des femmes et pour essayer de que les femmes deviennent plus résilientes, qu'elles deviennent autonomes par rapport à la précarité des moyens qu'ils ont. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons un peu ici à Lomé, à Kara, à Atapame, à Dapon. Nous sommes dans 4 préfectures. Lomé, Atapame, Kara. Mais je peux dire région. Quand on est à Atapame, les enfants viennent de Badou, ainsi de suite. Toute la région Badou, Kara, toute la région. Savane aussi, toute la région. Et ici aussi, toute la région. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ce que nous faisons. Au-delà des services directs, on est aussi dans les communautés pour aussi essayer d'accompagner, renforcer les familles. Et nous faisons aussi le plaidoyer. On fait le plaidoyer pour que les droits de l'enfant soient réalisés au niveau du taux.
Quels sont les impacts de vos actions aujourd'hui chez les enfants et jeunes Togolais?
J'ai dit aujourd'hui, nous avons, parmi les cadres togolais, on a des enfants qui sont passés à SOS. On a des enfants. On a 2 banquiers, directeurs de banque, et des enfants qui sont passés à SOS. Si on n'avait rien fait, on n'est pas sûr qu'ils devaient être aujourd'hui, faire les études, devenir les... On a des enfants qui ont fait des doctorats, sont des docteurs, avec l'accompagnement des SOS. On a des jeunes qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en Europe. Il y a beaucoup d'impact sur les enfants et les jeunes, surtout. Ceux qui, à un moment donné, ne peuvent plus continuer l'école, on leur fait la formation professionnelle. Ils apprennent les métiers et on les installe avant. Donc, je vous dis, jusqu'à 24 ans, l'enfant est là avec nous. Quand il aura 18 ans, il reste dans la clôture là jusqu'à 18 ans. On va louer des chambres dans les communautés. Et il est là, il va à l'université ou bien il va à HOS. Parce qu'il n'a pas eu 18 ans, on ne doit plus rester ici avec le nom. Et vous avez jusqu'à 24 ans, on vous accompagne. Mais ceux qui veulent faire le doctorat, et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soutiennent leur doctorat. On ne limite pas. Mais les autres, 24 ans. Et maintenant, quand ils quittent, ce qu'on fait, le lieu idéal pour qu'un enfant se développe, c'est sa famille. Que ce soit sa famille directe ou bien élargie. Donc, le travail de SOS, c'est qu'à la fin, on réunifie l'enfant avec la famille. Parce que quand il est à SOS, la famille vient pour rendre visite et systématiquement, chaque vacances, l'enfant retourne dans sa famille. Pour 2 mois de vacances. Il reste ici 9 mois, 2 mois de vacances, il retourne en famille. Les congés, ils ne vont pas, mais les mois, les vacances, ils y vont. Donc, pour avoir toujours le contact, il ne faut pas que l'enfant se déconnecte totalement avec sa famille. Donc, ils ont le contact. Et ça fait qu'à un certain âge, ce n'est pas systématiquement jusqu'à 24 ans. Parfois, vous pouvez venir pour une raison. Imaginez, vous êtes venu, votre papa a fait une bêtise, on l'a envoyé en prison pour 2 ans ou 3 ans. Dès que le papa sort, vous retournez en famille. Vous ne restez pas. C'est-à-dire que c'est en fonction de la raison pour laquelle vous êtes arrivé ici qu'on trouve la solution. On fait ce qu'on appelle l'évaluation de la situation de placement et puis on vous ramène. Mais sachez que SOS ne prend pas les enfants parce que oui, aujourd'hui je vous ai connu, vous pouvez venir demain me dire « Ah, j'ai un petit frère ou j'ai un oncle. » Non. SOS à les enfants de l'État togolais. Je vous explique. Pour qu'un enfant vienne à SOS, si vous connaissez une situation, vous devez aller dans l'action sociale de la localité, un service de l'action sociale. Ils vont faire une enquête. Quand ils font l'enquête, on va signaler à SOS. SOS va aller faire la contre-enquête. Et un jour, on s'asseye, l'équipe du ministère de l'action sociale, SOS et le juge des enfants. On compare les enquêtes pour vérifier si ce dont pourquoi on a dit l'enfant là, il va venir à SOS, est-ce que c'est vrai? Seconde chose, est-ce que l'enfant là respecte les critères de SOS? Par exemple, SOS ne prend pas les enfants handicapés. Pas parce qu'on fait la discrimination, mais vous allez voir que tout ce qui est ici, c'est escalier et on n'a pas les compétences pour s'occuper de ces enfants. 2. Les enfants de la rue, SOS ne s'en occupe pas. Donc, on va voir les critères. Si l'enfant correspond aux critères, maintenant, on va le chercher et on l'intègre dans une maison et il commence, il fait Hooters. Donc voilà, on y a beaucoup d'impact au niveau de choses par rapport à... Et nous avons des staffs, pas dans le psychologue. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans la communauté, est-ce que vous connaissez ce que c'est que, comment dirais-je, la psychologie ou l'impact psychologique sur un enfant. Quand un enfant fait des trucs, on va dire que c'est la sorcellerie ou bien il est fou. Or, la psychologie peut faire en sorte aussi que l'enfant peut être traumatisé, il peut faire des comportements ainsi. Donc, SOS a des psychologues et chaque fois quand l'enfant vient, on fait son profil. S'il a un traumatisme, on va l'accompagner. Au-delà de SOS, on peut l'envoyer aussi chez le psychologue externe au niveau de l'hôpital et SOS va payer.
En tant qu'élève, comment pouvons-nous contribuer à la défense et promotion des droits des enfants?
En tant qu'élève, vous pouvez beaucoup contribuer à la promotion et la protection des enfants. D'abord, un, la promotion des droits commence d'abord par rapport au respect de vous-même, vos devoirs. Vous avez des devoirs. Quand on dit droit à l'éducation, vous avez cité, vous avez le devoir d'aller à l'école. Vous avez le devoir de respecter vos enseignants. Vous avez le devoir de respecter vos camarades. Vous avez le devoir d'apprendre vos leçons. Vous avez le devoir de réussir en fin d'année. Quand on va chaque année, on reste dans une classe, on fait une pause là. Ça, ça ne contribue pas à la réalisation des droits de l'enfant. Parce que si vous voulez que les adultes puissent réaliser vos droits, vous-même, vous devez faire l'effort de respecter vos devoirs. On dit, il faut apprendre ses leçons. Le soir, vous arrivez, vous dormez. Ça va entraîner que papa ou maman va te taper. Et tu vas dire que j'ai des droits, non. Moi-même, là, qui vous parle, je vais te taper. Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, secondo, lorsque vous assistez à quelque chose, une maltraitance ou quelque chose qui n'est pas bien pour les enfants, vous avez l'obligation aussi de faire le signalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les enfants, mais le juge n'est pas quelqu'un qui prend une torche à midi en train de chercher les problèmes des enfants. Il y a ce qu'on appelle la chaîne pénale. C'est à vous. Chacun a son rôle. Nous, de le citoyen lambda, quand on voit quelque chose, on doit signaler à la police. Quand on signale à la police va aller voir le juge et maintenant tout le travail va se faire. Lorsqu'il y a les lois, le Parlement a fait des lois et ceux qui sont chargés de veiller sur les lois, c'est la police, c'est la justice. Et nous-mêmes, on voit des choses, on dit « Oh, ça là, ça ne fait rien ». On frappe un enfant, il est blessé un peu partout dans votre classe, vous ne dites rien, vous ne signalez à personne. Comment fais-tu que le juge puisse savoir qu'il y a maltraitance sur un enfant? Donc, votre façon de contribuer, il y a deux façons. Premièrement, c'est de respecter. Parce que je ne suis pas sûr que les enseignants que vous avez, c'est des fous pour qu'ils se lèvent pour vous frapper gratuitement. Frapper est interdit. Mais d'abord, vous devez respecter vous-même vos devoirs. Un devoir, on te donne un devoir de maison, tu ne fais pas. Tu reviens, tu es là. Et pendant même qu'on est en train de corriger, tu es en train de causer avec ton camarade. Ça va entraîner quoi? Eux n'ont pas d'alternative, ils vont vous frapper. Et la seconde chose, c'est de pouvoir en parler à vos parents et maintenant faire le signalement, c'est-à-dire que dénoncer. Quand vous voyez quelque chose, il faut appeler. Il y a le 10-11. Je ne sais pas si vous connaissez le 10-11. C'est un numéro gratuit. 10-11, vous pouvez appeler pour dire que j'ai vu un camarade qui est ici, qui est blessé, ou bien il y a un collègue, un camarade de classe, chaque temps, il vient, il dort. C'est des signaux. Donc, vous allez signaler. Il y a une équipe qui va venir et en fonction de ça, on verra comment pouvoir aider.
Et vous avez même réalisé une action citoyenne cette année, n'est-ce pas? Qui peut nous en parler? Quelle action avez-vous menée?
Nous avons organisé une campagne de sensibilisation dans notre quartier sur les droits des enfants. Nous avons distribué les fiches, fait des affiches et expliqué les droits aux enfants et aux adultes.
Et comment avez-vous trouvé cette action? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
C'était intéressant.
On a appris à parler en public, à travailler en équipe et on s'est senti utile. Les gens nous ont bien écoutés et nous ont félicités. On était fiers de nous.
Avant de terminer, un dernier tour de table. Quel conseil aimeriez-vous donner à d'autres enfants à propos de leurs droits?
Connaissez vos droits et parlez autour de vous. Si un droit n'est pas respecté, n'ayez pas peur d'en parler à un adulte de confiance. Ensemble, on peut faire changer les choses.
Merci beaucoup pour ce partage inspirant. Vous l'avez compris, les droits des enfants, ce n'est pas seulement pour les grands discours, c'est aussi pour l'action. Et c'est notre mission à nous, enfants engagés, faire entendre nos voix et défendre nos voix. Merci à tous nos invités. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était Leçon d'enfants.
L'émission radio des enfants qui s'engagent.
Et surtout, n'oubliez pas, nous avons des droits et nous les faisons vivre.